Radio Okapi.
Le journal Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres du journal. Les combats s'intensifient entre les forces armées de la RDC et le rebelle du M23 à proximité de Goma, dans les territoires des Nyiragongo et de Masisi. L'armée, soutenue par les volontaires pour la défense du Congo, s'efforce de repousser l'avancée de l'ennemi depuis Sake et Kibumba. Pendant ces temps à Goma, il s'observe une importante perturbation de la connexion Internet et de la téléphonie mobile. Jean-Jacques Pourroussi rassure la population que toutes les mesures nécessaires sont prises pour empêcher la progression des rebelles du M23 et leurs alliés vers le sud Kivu. Il demande également aux chefs des groupements et de chefferies de bien protéger les Chinois exerçant des activités minières dans leurs entités. Cette déclaration a été faite hier lors d'une réunion à Bukavu. La deuxième phase du programme de civisme citoyen post-électoral des jeunes en RDC a été lancée hier par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Quels sont les avantages de ce programme? On en parle tout à l'heure avec Trésor Kalonji, responsable du chapitre Afrique de l'Est du programme Yali. Il est l'invité de ce journal. Ouvrons ce journal par le Nord Kivu. Les combats continuent ce vendredi sur deux fronts autour de Goma, l'axe Kibumba dans les territoires de Nyiragongo et l'axe Sake dans les territoires de Masisi. L'armée congolaise et ses alliés tentent de repousser le rebelle occupant Sake et de contrer leur avancée vers Kibumba. Depuis hier jeudi, la MONUSCO a également réactivé l'opération Springbok pour protéger la ville de Goma. Le point avec Bernard Denyangi.
Depuis 8 heures locales, des détonations d'armes lourdes et légères ont repris, notamment sur l'axe Sake, territoire de Masisi, et sur l'axe Kanyamaoro-Kibumba, territoire de Nyiragongo. En ce qui concerne Sake, plusieurs sources indiquent que la cité, y compris le village de Mubambiro, était jusque ce matin occupée par les rebelles du M23. Et selon ces sources, l'armée et ses alliés tentent de contrer l'avancée de ces rebelles vers Goma, en débordant dans le parc national de Virunga par le nord de Nzulo. Depuis hier jeudi, la ligne de front de l'axe Sake est défendue par les FARDC alliés au Azalendo, la MONUSCO dans le cadre de Springbok, ainsi que la SAMIDRC. Des détonations qui continuent sur cet axe exacerbent la panique constatée dans la ville de Goma. Sur l'autre front, des affrontements violents se poursuivent sur l'axe Kibumba, où depuis tôt ce vendredi, les rebelles du M23 tentent à nouveau une autre percée vers la ville de Goma, qui est empêchée par l'armée congolaise. Toute la journée hier jeudi, des détonations d'armes lourdes ont été entendues dans cette partie nord du territoire de Nyiragongo. Une bombe larguée par les rebelles est d'ailleurs tombée dans un village du groupement Mouja, tuant au moins deux personnes. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ces temps, la ville de Goma se réveillait ce matin avec une importante perturbation de la connexion Internet et de la téléphonie mobile. Une grande partie de la ville est également privée d'eau et d'électricité. Cette situation exacerbe l'inquiétude des habitants qui s'interrogent sur leur sort en cette période de crise sécuritaire provoquée par les combats entre le FARDC et l'arme 23. La population plaide pour une communication officielle des autorités afin de la rassurer. Denise Loukesso.
C'est depuis hier, vers 20h, qu'on observe la perturbation sur les réseaux Internet. Le courant électrique l'est également dans la plupart des quartiers de la cité lacustre. Alors que les autorités multiplient les appels au calme et invitent la population à ne pas céder à la panique, cette perturbation risque elle-même d'être source de panique et de rumeurs, dit cet habitant.
S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion Internet. Comment voulez-vous vraiment que la population ne cède pas à la panique? Ces genres de décisions, pour moi, sont elles-mêmes des sources vraiment de panique. Une pression qui est déjà sur la ville de Goma, une pression qui est déjà sur les habitants de Goma. On ne parle pas des problèmes alimentaires. Ajouter ces genres de pressions, on ne sait plus quoi faire en effet.
Cet autre habitant invite les autorités à communiquer officiellement pour apaiser la population quant à l'évolution de la situation.
Demandons seulement aux autorités de rétablir la connexion Internet parce que ça nous permet d'abord de suivre l'actualité et aussi d'être en contact avec les membres des familles qui sont ailleurs, qui s'inquiètent vraiment de nous, ils veulent savoir comment nous sommes, comment nous vivons.
Outre les activités scolaires qui restent suspendues sur ordre des autorités de l'éducation, les activités commerciales tournent au ralenti. Cependant, les transports en commun fonctionnent normalement. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Par ailleurs, la guerre qui se déroule simultanément dans les provinces du Nord et du Sud Kivu entraîne des effets collatéraux. Trois civils, dont une femme et son bébé, ont été tués hier par des bombardements aériens sur les positions rebelles, dont les montagnes de Nguiro, dans les territoires de Calais au Sud Kivu. Trois autres personnes ont été blessées dans les mêmes circonstances. Cette information a été confirmée par le président de la société civile de Calais, Kassole Ngonyonzi, contacté par Jean Kassami.
La situation sécuritaire dans le groupement des Bouzi, et particulièrement dans l'axe Bouzi-Boulenga, était très tendue la journée de ce 23 janvier 2024. Les forts bombardements d'opposition des rebelles du M23 se trouva sur la montagne d'Enguiro qui surplombe Nzulo et également Nyundo. En tout cas, ces bombardements ont causé des dégâts. On a enregistré une maman et son enfant qui étaient morts sur les champs, mais aussi un homme qui a perdu la vie et trois autres ont été blessés. Donc la situation jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, elle est très tendue, des bombardements toute la journée en direction de Sake et en direction de la presqu'île de Boulenga, vice-versa. La population s'est vidée de tous les villages environnant les positions de ces rebelles du M23.
Kassole Ngonyonzi ajoute que trois autres civils ont été fauchés par des bombes dans le village de Kitembo le 22 janvier. Parlons toujours sécurité. La société civile du groupement de Batongimbao, situé à 25 km au nord de Beni, toujours au nord Kivu, alerte ce jeudi sur la présence de rebelles ADF dans plusieurs villages de cette entité. Selon lui, Katembo Kisaki, son président, les habitants ne peuvent plus se déplacer librement depuis deux semaines par crainte d'enlèvement ou de meurtre. Il plaide pour un renforcement des positions militaires dans la zone. Lui, Katembo Kisaki, a été joint par André Kitenge.
On venait de constater un mouvement qui venait de s'agrandir des suspects, des ADF dans notre milieu, dans le groupement Batangimbao. La population ne fréquente même pas un kilomètre des agglomérations, ayant peur d'être attrapée ou bien d'être tuée par ses ennemis comme les ADF dans notre milieu. Même à un kilomètre des agglomérations, on n'est pas capable d'affronter cette contrée, ayant peur d'être égorgé par ses ennemis ici. Alors pour nous, comme société civile, du groupement Batangimbao, on continue à alerter les agents de sécurité de renforcer les positions militaires. Et lorsqu'ils seront renforcés, nous on croit que la sécurité va reprendre la situation normale. Mais pour ce moment ici, nous avons constaté que cela cause directement la présence de ces ennemis dans le milieu. Ce qui était Mayangose, vous descendez vers Bemba ici. Dans toutes les contrées de l'est à l'ouest, toutes les contrées sont menacées aujourd'hui par les ADF. Nous ne savons plus à quel sens se vouer.
Sachez également que les questions de paix et de sécurité dans l'est de la RDC ont été discutées hier à Kinshasa entre le président du Sénat congolais Jean-Michel Sama Lukonde et Nelly Kashumba Muti, présidente de l'Assemblée nationale zambienne. En visite à Kinshasa, Nelly Kashumba, préoccupée par l'escalade des conflits, a échangé sur les solutions pacifiques pour la région du Grand Lac, en particulier pour l'est de la RDC. Elle s'est exprimée au micro de Michel Kifindangoy.
Avant tout, je suis venu rendre visite à mon collègue du Sénat de la RDC dans le cadre d'une visite de courtoisie entre frères. Aussi, je suis, c'est en ma qualité de présidente en exercice du Forum parlementaire de la région des Grands Lacs, et je suis venu rendre visite, effectuer une visite de travail au secrétariat général de l'organisation. Comme vous le savez, nous avons entrepris une mission d'information parlementaire sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. On est venu entre autres parler de ça et aussi voir certaines questions d'ordre administratif au niveau du secrétariat général. La question de comment on peut résoudre nos différends dans la paix occupe une importance capitale au Forum parlementaire de la région des Grands Lacs, parce que ce que nous promouvons, c'est la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL. Donc la paix est importante pour assurer l'harmonie entre nos pays ici dans la région des Grands Lacs.
Ces sujets relatifs à la paix dans l'est de la RDC est d'autant plus crucial au regard de la situation préoccupante qui prévaut dans la région actuellement qu'au cours de la même journée, Jean-Michel Sama Lukonde a également reçu le caucus des députés du Nord et Sud Kivu, conduit par l'honorable Modeste Bahati, deuxième vice-président du Sénat. La commission diocésaine justice EP de l'archidiocèse de Kinshasa, CDJP en sigle, appelle les autorités congolaises à examiner la crise sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Kwamout, province de Maïndombe et la commune rurale de Maluku à Kinshasa. Dans un rapport publié jeudi 23 janvier, la commission souligne que cette crise a plongé les communautés des Kwamout et des Maluku dans une extrême vulnérabilité. Cette interpellation de la CDJP s'inscrit dans le cadre du projet Lisanga financé par la Direction générale de la Commission européenne pour l'aide humanitaire et Caritas internationale Belgique. Billy Ivan Lutumba nous en parle.
Ce rapport mentionne qu'il est enregistré plus de 3000 morts, 550 400 personnes déplacées et des villages rebaptisés. C'est le bilan que regrette la commission diocésaine Justice et Paix en insistant que la situation dans cette partie ouest du pays se dégrade. Ce rapport de la CDJP mentionne que des violences ciblées, des destructions des biens, des confrontations armées et la hausse de la criminalité ont exposé les populations civiles à une situation humanitaire complexe. Elle est caractérisée par des déplacements forcés, des décès des civils, des militaires, une insécurité alimentaire accrue et un accès réduit aux services sociaux de base. Elles sonnent ainsi une alarme sur l'urgence de la restauration de la paix dans cette région. Sœur Perpétue Makiesse, directrice du projet Lisanga.
Au ministère des Justice et Garde des Sceaux, nous recommandons l'organisation des procès publics afin de décourager les velléités des autres personnes qui seraient tentées de rejoindre le mouvement Mobondo. À l'Assemblée nationale, d'initier une enquête parlementaire pour dénicher les tireurs des ficelles, afin de formuler les recommandations idoines au gouvernement pour mettre fin à cette crise.
La commission Justice et Paix de Kinshasa invite par ailleurs la communauté internationale et tous les autres humanitaires à porter assistance aux victimes de cette crise.
Nous le disions dans les titres, le gouverneur du Sud Kivu a réuni hier à Bukavu le représentant des entités territoriales décentralisées pour aborder deux points. Premièrement, la situation de la guerre qui prévaut actuellement dans la partie orientale de la province, notamment dans les territoires de Kalehe. Deuxièmement, le gouverneur a instruit tout le chef de groupement et de chefferie de veiller à la protection des ressortissants chinois exerçant des activités minières dans leurs entités. Jean-Jacques pour aussi a exhorté les exploitants chinois irréguliers à se conformer à la législation de la RDC, la Chine étant un pays ami. Écoutons le résumé du gouverneur professeur Jean-Jacques pour aussi dans cet extrait choisi par Jean Kassami.
Je voulais ici profiter de l'occasion pour rassurer nos populations, pour voir comment nous allons renforcer, appuyer nos forces de défense et de sécurité pour qu'elles continuent à se comporter très très bien sur le terrain. Je suis ravi de dire ici que la riposte est en cours et elle va avancer. Jamais l'ennemi va faire plier toute une population, toute une grande nation que la République démocratique du Congo. Je termine en disant que nous avons discuté de la question des investisseurs. Tous les citoyens chinois nous ont aidés et continuent à nous aider, que ce soit dans le secteur minier, mais aussi dans le secteur des infrastructures. Vous allez constater que c'est la seule grande puissance qui est avec nous ici au Sud Kivu. En dépit des mesures que nous sommes en train de prendre pour réguler le secteur minier, les instructions ont été données à tous ici, que ce soit dans les territoires, dans les chefferies et dans nos villes ici, afin que nous puissions protéger ces citoyens chinois, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le secteur minier. L'idée, c'est de les remettre dans la légalité.
Un communiqué du cabinet du ministre de la Justice annonce qu'une vente publique de biens immobiliers de l'ancien président de la CENI, Corneille Nanga, aura lieu le 30 janvier prochain. Nous l'avions mentionné dans nos précédentes éditions. Cependant, comment s'organise la vente publique d'un bien confisqué par l'État conformément à la loi? Cette question a été posée à des juristes, notamment Maître Jean-Marie Kabengele Ilunga, qui l'analyse en se référant au Code des procédures militaires et à la loi OADA. Selon lui, le ministre de la Justice n'a pas compétence pour annoncer cette vente. En effet, seul le ministre de la Défense en a la compétence. Il s'agit d'une vente publique non de gré à gré qui doit attendre un jugement irrévocable. Or, d'après mes recherches, cela n'est pas le cas, affirme Maître Jean-Marie Kabengele Ilunga au micro de Jeff Ngoy.
Lorsque le bien est confisqué, il y a toute une procédure pour pouvoir procéder à la vente. Cette vente doit être organisée en conformité avec l'acte uniforme de l'OADA, portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement. Au titre 8, il est indiqué comment on procède et c'est de la compétence de la juridiction présidentielle. Comment ça se passe? Il faudrait qu'on se rassure que la décision de condamnation est devenue irrévocable. C'est-à-dire, les voies de recours sont épuisées ou les délais pour les exercer sont forclos. Dans l'espèce, j'ai mené mes recherches. J'ai découvert qu'en date du 7 janvier courant, quelques prévenus condamnés en appel se sont pourvus en cassation. Cela étant, l'article 47 de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation dit que ce pourvoi-là suspend l'exécution de la décision à l'égard de toutes les parties.
Le cabinet du ministre de la Justice que nous avons contacté estime que la question est délicate.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, des familles de victimes de l'apartheid accusent l'ANC au pouvoir depuis le début de la démocratie sud-africaine en 1994 de ne pas avoir assez enquêté sur ces crimes et atrocités après la commission Vérité et Réconciliation qui, pendant 3 ans, a entendu des victimes et bourreaux. La justice n'a pas suivi et très peu des procès ont eu lieu. Ces familles tenaient une conférence de presse à Johannesburg ce jeudi 23 janvier pour expliquer leur procédure contre l'État. Pour les familles qui attendent toujours des réponses, plus de 30 ans plus tard, l'ANC est responsable de déni de justice.
L'invité.
Notre invité est Trésor Kalongi, responsable du chapitre Afrique de l'Est du programme YALI, une initiative du département d'État des États-Unis. Avec Ronelli Timonera, ce jeune leader revient sur les avantages offerts par la deuxième phase du programme de civisme citoyen post-électoral des jeunes en RDC en faveur des jeunes Congolais lancé ce jeudi 23 janvier par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa.
Monsieur Trésor Kalongi, bonjour.
Bonjour.
En programme d'éducation civique, est-ce une priorité pour la jeunesse congolaise?
Bien sûr. On a toujours dit que tout n'est pas forcément question d'argent en ce qui concerne le développement, mais il y a de la volonté et au-delà de cette volonté, il y a la mentalité. Si vous n'avez pas la volonté et la mentalité, toute initiative de développement ne réussira pas. C'est pour cela que nous avons, avant les élections de 2023, d'abord voulu sensibiliser les jeunes parce qu'on s'était rendu compte que les jeunes, en 2006, en 2011 et en 2018, n'ont pas voté en masse. Pourquoi la politique ne les intéresse pas au point qu'ils ne votent pas régulièrement et de façon significative? C'est cette interrogation que l'ambassade a prise pour mettre en place le programme. Faire d'abord en sorte que les jeunes s'intéressent aux élections. Pourquoi il est utile de voter? En quoi le vote est un outil citoyen qui peut leur permettre de prendre leur vie en main? Avant 2023, nous avons fait des campagnes de sensibilisation et de formation. Nous avons monté comment décortiquer le programme d'un candidat, comment analyser le programme d'un candidat, comment voter pour un bon candidat en termes de projet de société, en termes de programme. Et avec tous ces outils, ils ont été capables de faire des choix qui correspondaient à leurs aspirations. À l'issue des élections, il y a eu un sondage qui a été réalisé et l'ambassade s'est rendu compte que de nombreux jeunes avaient pour la plupart participé pour la première fois au processus électoral grâce aux différentes formations qu'ils avaient obtenues. Et cela nous a encouragés à se dire que les jeunes s'intéressent à la gouvernance publique, mais encore faut-il qu'ils aient les outils qui leur permettent d'aller en profondeur. C'est comme ça que la deuxième phase de ce projet a été mise en place. Comme les institutions sont déjà actives, comment maintenant rapprocher ceux qui ont été élus avec les gouvernements? Nous ne nous limitons plus à ce qu'on voit quand quelque chose ne va pas, quand il pleut, il y a des inondations, on se limite
à dénoncer. Parce qu'on doit vraiment parler de ça une année après, la jeunesse se mobilise pour voter des candidats, mais on a comme impression que rien ne change. Est-ce que ce n'est pas vraiment du perdre des temps?
Non, mais comment ça va changer si vous ne vous intéressez pas à ce qui se fait en votre nom? Je l'ai bien dit ici, ce qui est fait sans nous et contre nous. Et il faut qu'il y ait d'abord cette implication, cette volonté-là des jeunes de s'intéresser à la chose. Ça ne veut pas dire que vous avez élu un député et puis c'est là, vous êtes là, vous croisez les bras, vous attendez qu'il fasse tout pour vous. Le député n'est pas omniscient. Vous avez des ambitions personnelles peut-être, vous avez des idées, tout le monde a des idées innovantes sur comment développer son entité, son quartier, sa communauté. Mais est-ce que les députés connaissent tout ça? Non. C'est pour cela que vous devez aller avec ces députés, avec ces conseillers pour leur dire, moi je suis un jeune de telle commune, de telle avenue, voici l'idée innovante que j'ai pour développer mon entité. Est-ce qu'on ne peut pas prendre cela en compte dans la conception du programme de la commune, de la ville, du quartier? C'est ce qu'on veut, que ça ne se termine plus comme on voit sur sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais une bonne idée pour régler les embouteillages. J'ai écrit à tel, on ne m'a pas répondu. Moi, j'avais une bonne idée pour régler tel problème de courant, logette électrique ou quoi. J'ai écrit à tel, on ne m'a pas aidé. Non. Prenez maintenant ces idées innovantes-là. Allez voir vos conseillers communaux. Il y a des conseils communaux. Vous intégrez ça parmi les projets de développement et les politiques publiques. Donc, voilà une solution pour lutter contre le délestage. Voilà une solution pour lutter contre tel phénomène. Voilà telle solution. Et cela est pris en compte quand eux maintenant vont formuler la politique publique qui va aller avec le budget correspondant et tout ça. C'est comme ça qu'on développe une entité, pas en vase clos. Le député est là pour canaliser les choses. Vous, chacun à son niveau, a la prérogative de mettre en avant ce qu'il pense être juste ou utile pour sa communauté. Et c'est pour cela que nous avons lancé ce programme, donnant des outils à chaque jeune pour leur permettre de savoir comment on conçoit une politique publique, comment on intègre les objectifs de développement durable. Parce qu'attention, on ne fait pas des activités juste pour le plaisir de le faire. On les fait pour accomplir les ODD des Nations Unies.
Pour terminer, l'inaccessibilité des autorités, c'est un problème en République démocratique du Congo. Cette deuxième phase post-électorale a des réponses à cela?
Bien sûr, nous avons touché quatre bourgmestres dans les différents districts. Nous avons les députés nationaux que vous avez vus aujourd'hui, des députés provinciaux, des conseillers communaux. Et nous avons montré qu'il était important pour eux de se rapprocher de leurs entités. Et il y a des outils, par exemple des outils numériques qui permettent de renforcer. C'est vrai qu'il n'est pas évident de réunir tout le monde physiquement à un endroit, mais il y a des outils numériques aujourd'hui qui permettent de faire ce rapprochement-là de façon plus aisée. Et on apprend également à ces élus de pouvoir utiliser ces outils, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la messagerie électronique ou bien d'autres plateformes, pour se rapprocher de leurs élus. Et si vous avez besoin d'intégrer le programme pour que vous puissiez également avoir les mêmes outils, vous pouvez nous écrire à info@yali.cd. Nous passerons dans votre commune. Nous allons également faire la même sensibilisation et la même formation pour que tout le monde ait accès aux mêmes opportunités.
Trésor Kalondji, Radio Kapi, vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Trésor Kalondji, responsable du chapitre Afrique de l'Est du programme Yali, s'entretenait avec Ronelli Ntibonera. Ainsi s'achève ce journal sur Radio Kapi. Il a été mis en onde par Billy Landry Betou, coordination de Jean-Yves Molima sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons à 16h pour les bulletins d'information.